Laudetur Jesus Christus.
Jubilé des jeunes, la ville de Rome investie par des centaines de milliers de jeunes du monde entier. Certains sont venus de très loin, notamment du Pacifique. Rencontre avec une pèlerine de Polynésie française. Cette communion et cet esprit de joie et de paix contrastent avec l'actualité internationale. À Gaza, par exemple, très peu d'améliorations sur le plan alimentaire. Après la France et le Royaume-Uni, le Canada a lui annoncé hier soir son intention de reconnaître l'État de Palestine. L'offensive douanière de Donald Trump frappe le Brésil. Le président américain mêle considérations commerciales et politiques, s'en prenant aussi à un juge brésilien. Alors que son armée progresse en Ukraine, la Russie entend bien contrôler aussi la Moldavie. C'est ce qu'affirme sa présidente, Maia Sandu, qui affirme que Moscou prépare une opération complexe et coordonnée d'ingérence sans précédent. La traite des êtres humains ne cesse de croître, notamment dans des centres d'escroquerie en ligne en Asie du Sud-Est. C'est ce que nous verrons en Birmanie dans notre dossier à suivre à la fin de ce journal.
Radio Vatican, le journal, Xavier Sartre.
Bonjour. Leur chant résonne dès l'aube dans les rues de Rome et notamment sous les fenêtres de Radio Vatican. Les jeunes catholiques venus célébrer leur jubilé ont afflué vers la tombe de l'apôtre Pierre. Cette journée de jeudi est ainsi consacrée à des rencontres et des dialogues à travers toute la capitale italienne. Les drapeaux et les langues se mélangent. Certains d'entre eux sont venus de très loin. C'est le cas de Mareva Reva. Elle accompagne en effet des jeunes de Tahiti. Ils se sont préparés pendant plusieurs mois pour faire le déplacement, pour vivre cette rencontre joyeuse, multicolore et multiculturelle.
Pendant plusieurs mois, voire même un an à deux ans, les jeunes ont beaucoup travaillé. Ils ont organisé des ventes de plats, ils ont organisé des petits déjeuners pour pouvoir payer tout ce voyage. Ils ont eu aussi de la chance d'avoir de généreux bienfaiteurs, de généreux donateurs qui ont contribué justement à ce voyage à travers les billets d'avion, en les aidant financièrement. Les paroissiens aussi ont été très, très généreux aussi avec les jeunes. Après, Rome, c'est quand même, c'est Rome, quoi. C'est notre maison, c'est notre foyer, à nous, catholiques. C'est là où vit notre bon berger, c'est là où vit notre pape, pour qui nous avons beaucoup, beaucoup d'amour, beaucoup de respect. Et en tant que Polynésiens qui venons de loin, ce que nous, on attend, c'est ça. Et aussi, c'est l'ouverture des portes saintes. C'est une rencontre profonde avec Jésus-Christ dans ce cadre exceptionnel qu'est Rome.
Des propos recueillis par Isabelle Carvalho. Et ces jeunes disséminés dans tout Rome vont se retrouver pour certains ce soir vers 19h, place Saint-Pierre, pour la profession de foi présidée par le cardinal Zuppi, le président de la conférence épiscopale italienne, sur le thème « Tu es Pierre ». Le jubilé des jeunes, c'est bien sûr à suivre sur notre site internet et nos réseaux sociaux. Ces jeunes, ils retrouveront le pape samedi soir pour la veillée avant la messe de dimanche. Le pape qui hier a repris ses audiences générales place Saint-Pierre. Léon XIV a conclu le cycle consacré à la vie publique de Jésus. Notre époque a aussi besoin de guérison car elle est imprégnée de violence et de haine qui bafoue la dignité humaine, a-t-il affirmé, face à la boulimie de connexion des réseaux sociaux qui infecte notre société. Le Seigneur nous offre une proximité silencieuse par des gestes qui parlent d'une rencontre profonde, a-t-il souligné. Et puis le pape a évoqué également lors de cette audience générale les 50 ans de la conférence d'Helsinki qui a consacré un rapprochement entre Ouest et Est en pleine guerre froide ainsi que la reconnaissance de la liberté de religion. Aujourd'hui, plus que jamais, il est indispensable de préserver l'esprit d'Helsinki, de persévérer dans le dialogue, de renforcer la coopération et de faire de la diplomatie le moyen privilégié pour prévenir et résoudre les conflits, a déclaré le Saint-Père. La diplomatie parviendra-t-elle ainsi à mettre un terme aux souffrances des Palestiniens de la bande de Gaza? Ottawa, en tout cas, emboîte le pas à Paris et Londres. Le Canada prévoit en effet de reconnaître l'État de Palestine en septembre à l'ONU. C'est ce qu'a annoncé hier le Premier ministre canadien, Mark Carney. Un changement de politique aussitôt condamné vigoureusement par Israël. Le président français Emmanuel Macron, lui, a pour sa part salué l'annonce du Premier ministre canadien, Augustin Asta.
Le Canada a l'intention de reconnaître l'État de Palestine lors de la 80e session de l'Assemblée générale des Nations unies en septembre 2025, a déclaré Mark Carney lors d'une conférence de presse à Ottawa, soulignant que le niveau de souffrance humaine à Gaza est intolérable. En franchissant le pas de la reconnaissance, le Canada est motivé par une conviction de longue date en faveur d'une solution à deux États pour mettre fin au conflit israélo-palestinien qui dure depuis des décennies, a justifié son premier ministre. Israël a immédiatement décrié cette annonce et a dénoncé une campagne de pression internationale déformée. Le ministre israélien des Affaires étrangères a d'ailleurs fustigé dans une publication sur X le changement de position du gouvernement canadien, affirmant que cela récompense le Hamas et nuit aux efforts visant à obtenir un cessez-le-feu à Gaza et un cadre pour la libération des otages. Le président français Emmanuel Macron a pour sa part salué l'annonce du premier ministre canadien et s'est réjoui de pouvoir travailler de concert avec le Canada pour relancer une perspective de paix dans la région.
Augustine Asta, et cette décision canadienne contrarie Donald Trump qui estime qu'après cette décision, donc un accord commercial avec le Canada sera très difficile. Le président américain qui n'hésite pas à s'immiscer dans les affaires internes des autres pays, c'est le cas au Brésil où le président mélange questions commerciales et questions de politique interne. Donald Trump annonce ainsi que les États-Unis appliqueront à compter du 1er août 50% de surtaxe douanière aux produits brésiliens. Il va aussi viser le juge de la Cour suprême Alexandre de Moraes, qu'il accuse de mener une chasse aux sorcières contre l'ancien président Jair Bolsonaro, accusé de tentative de coup d'État. Ces surtaxes et sanctions visent clairement à faire pression sur le gouvernement brésilien. À Rio de Janeiro, Sara Cozzolino.
Un scénario inquiétant avec des impacts sociaux et économiques imminents. Eduardo Heron, directeur technique du Conseil des exportateurs de café du Brésil, rappelle que les États-Unis sont les plus grands consommateurs de café au monde et se fournissent principalement au Brésil.
Nous souhaitons que les autorités publiques et les secteurs privés s'associent pour négocier de façon plus équilibrée, car à court terme, le Brésil ne parviendra pas à transférer 8 millions de sacs de café vers d'autres destinations et les États-Unis à acquérir ce volume sur le marché.
Ce mercredi, Donald Trump a pourtant signé un décret incluant près de 700 exceptions à la surtaxe dont le café ne fait pas partie. Les secteurs du jus d'orange, du pétrole ou encore de l'aviation y échapperont. Mais si en coulisses, Washington s'est montré prêt à négocier, le président américain durcit le ton sur le terrain politique. Mauricio Santoro, professeur de relations internationales à l'Université de l'État de Rio de Janeiro.
Les tensions se concentrent autour de la figure du juge Alexandre de Moraes, qui est désormais sujet de sévères sanctions économiques. C'est la première fois que ce type de sanction est utilisé contre un agent d'un régime démocratique.
Alors que la popularité du président brésilien est remontée ces dernières semaines, les partisans de Jair Bolsonaro ne comptent pas faire baisser la pression et appellent à des rassemblements dans les grandes villes du pays ce dimanche. À Rio de Janeiro, Sara Cozzolino pour Radio Vatican.
Et nul n'est épargné par la hausse des tarifs douaniers américains. L'Inde subira 25% de hausse sur ses exportations. Une pénalité sera même rajoutée pour l'achat de pétrole russe. C'est ce qu'a précisé Washington. La Moldavie, elle, n'est pas prête à acheter du pétrole russe. La présidente Maia Sandu dénonce en effet à de nouvelles ingérences russes à l'approche des législatives du mois de septembre. Elle accuse Moscou de préparer une opération complexe et coordonnée pour faire basculer dans son camp une Moldavie pro-européenne. À Moscou, Jean Didier Revoin.
Si le parti Action et Solidarité de Maia Sandu recueille actuellement près de 39% des intentions de vote, occupant ainsi la première position dans les sondages, 30% des électeurs moldaves se déclarent néanmoins indécis. La présidente élue l'an dernier accuse donc la Russie de vouloir faire basculer la Moldavie dans son camp. Selon elle, Moscou aurait investi quelques 100 millions d'euros pour contrôler ce pays situé entre l'Union européenne et l'Ukraine. Des montants destinés à financer des achats de votes et des financements à l'aide de crypto-monnaies, des campagnes de manipulation de l'information, des cyberattaques ou encore l'organisation de manifestations violentes rémunérées. Pour la présidente moldave, les bénéficiaires de ce qu'elle qualifie de guerre hybride sont les deux principales forces de l'opposition qui pourraient ainsi la priver d'une majorité au Parlement et nuire à sa politique de rapprochement avec l'Union européenne. Elle reproche enfin à Telegram, le réseau qu'elle accuse d'être dirigé contre elle, de ne pas donner suite à ses signalements, même si elle félicite la police pour son action, précisant que les forces de l'ordre ont déjà infligé 25 000 amendes aux acteurs de ce sabotage. Jean-Didier Revoin, Moscou, pour Radio Vatican.
Pas de manipulation en Ukraine, c'est la force brute qui domine. L'armée russe progresse. Elle vient d'annoncer ce matin la prise de Chassiv Yar, un important bastion de l'armée ukrainienne dans la région de Donetsk. Cela faisait des mois que ce centre stratégique était au cœur des combats. La traite des êtres humains connaît une croissance alarmante avec des centaines de milliers de personnes piégées dans des centres d'escroquerie en ligne à travers l'Asie du Sud-Est. C'est ce qu'a dénoncé hier l'ONU à l'occasion de la Journée mondiale contre la traite des personnes. Des centres qui sont nombreux en Birmanie et qui sont alimentés par un important réseau de traite humaine géré par le crime organisé. Un réseau décrit par les Nations Unies comme l'une des plus grandes opérations coordonnées de traite des personnes de l'histoire. 120 000 personnes, principalement des travailleurs étrangers, seraient ainsi forcés de travailler pour des organisations criminelles. Les victimes de ce que l'on appelle le cyber-esclavage sont généralement attirées par de fausses offres d'emploi. Elles se retrouvent malheureusement prises au piège dans des complexes fermés où les conditions de détention sont déplorables. Un expatrié français qui a visité ces centres d'escroquerie en ligne dans le cadre d'une mission et qui a requis l'anonymat témoigne du fait que la cybercriminalité est en plein essor dans la région avec des conséquences économiques et humaines importantes.
Tous les ans, il y a 43 milliards de dollars qui sont en fait dérobés par ces centres d'arnaque en ligne en Asie du Sud-Est à des victimes du monde entier. L'étude montre que si on rassemble, si on additionne le PIB du Laos, du Cambodge et de la Birmanie, 43 milliards, ça représente 40% du PIB combiné. Donc, c'est des sommes qui sont absolument colossales. Il y a les Nations Unies qui estimaient, encore une fois, fin 2024, que le nombre de personnes impliquées dans ces arnaques en ligne était d'environ 120 000 en Birmanie et 100 000 au Cambodge.
Ces centres se sont multipliés en Birmanie, notamment près de la frontière avec la Thaïlande, qui sont les victimes.
Les victimes, au début, c'était essentiellement des Chinois crédules, très intéressés par les crypto-monnaies. Au cours des dernières années, il y a quand même eu une bonne partie de clientèle occidentale. Les États-Unis, le Canada, l'Europe, etc. sont aussi tombés dans le collimateur de ces groupes-là. Quant aux victimes qui travaillent dans ces centres d'escroquerie en ligne, pendant longtemps, ça a été énormément de Chinois. On a aussi des dizaines de milliers de Birmans qui sont pris dans ces réseaux-là. Il y a un certain nombre de gens qui se font avoir par de fausses offres d'emploi, mais l'honnêteté me force aussi à vous dire qu'il y a un certain nombre de gens qui sont tout à fait conscients dans quoi ils s'engagent. Et là, c'est notamment le cas des Birmans ou de certains Chinois qui savent très bien qu'ils vont faire de l'escroquerie en ligne, mais c'est des boulots qui payent bien. Et dans le contexte économique précaire, on ne refuse pas un bon salaire.
La Thaïlande a annoncé en février dernier un accord avec la Birmanie et la Chine pour rapatrier des milliers de travailleurs présumés dans ces centres de fraude en ligne. Quel impact cet accord peut avoir dans le cadre de la lutte contre ce fléau majeur?
Depuis fin 2023, globalement, début 2024, il y a des raids de grande ampleur sur ces centres d'escroquerie en ligne en Birmanie. Il y a 60 000 Chinois qui ont été libérés de ces centres d'escroquerie en ligne. Et puis, ces raids ont aussi mené à la libération de toute une population qu'on ne soupçonnait pas forcément, avec des centaines d'Éthiopiens, de Kényans, des Marocains, des Indiens, des Pakistanais, des Sri Lankais, toute une couche de population de pays, on va dire, émergents, de gens qui savent un peu parler anglais, qui savent un peu utiliser un ordinateur et qui sont tombés dans ces réseaux-là.
Comment fonctionnent ces centres de cyberfraude en Asie du Sud-Est?
La Birmanie, c'est vraiment la plaque tournante de ces pratiques-là en Asie du Sud-Est. On est dans un pays en guerre civile dans lequel, de toute façon, la dignité est foulée aux pieds au quotidien. Les gens manquent cruellement d'échappatoires, de revenus, d'opportunités. Donc, quand ils voient des offres d'emploi pour un travail certes dangereux, ils vont y aller, ils vont le prendre, ce salaire. Mais c'est vrai que la violence est quand même prégnante dans ces centres-là. Les sévices corporels sont relativement fréquentes. Les gens ne peuvent pas forcément aller et venir comme ils veulent. Il y en a qui sont quasi carcérales, dans lesquelles il y a des gens qui parfois sont battus à mort. Pour des jeunes qui habitent dans un bidonville, par exemple, à Rangoon, qui sont à la merci de la police, qui sont à la merci de la conscription forcée qui est actuellement menée par le régime, finalement, ces centres d'escroquerie en ligne ne sont pas si mal. Et dans ces centres-là, au moins, ils sont sûrs de ne pas se faire recruter par l'armée birmane.
Cyberfraude en Asie du Sud-Est, un sujet préparé par Augustine Asta. C'était ce matin le dossier de Radio Vatican. Voilà, c'est la fin de cette édition. Prochain retour de l'actualité en langue française, ce sera 13h heure de Rome. D'ici là, n'oubliez pas notre site internet www.vaticannews.va. Excellente journée à toutes et à tous.